Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver. L'ouvreuse Louis-Marie, Laurent Martin. Bonsoir Laurent. Laurent n'est pas là. Il est parti. On se demande où. Mais avec nous, il y a Guillaume Sidom. Comment êtes-vous arrivé et comment êtes-vous là? C'est important parce que Laurent traîne, on ne sait pas ce qu'il fait. Il navigue entre je ne sais trop quoi, une autre dimension probablement. Allez, Guillaume Sidom, dites-nous tout.
Très bien arrivé, merci. Ce soir, un thriller crépusculaire et mélancolique, magistralement mis en scène. Et en plus, ce sera à découvrir ou redécouvrir, c'est selon, en version numérique restaurée.
Bon, le revoilà. On l'a enfin trouvé, on ne sait pas, il était dans une autre dimension, c'est ce qu'on se disait, Guillaume Sidom à l'instant, il est là. Laurent Martin, bonsoir.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous. Oui, en effet, j'étais dans la quatrième dimension, donc je suis revenu, je suis dans notre dimension actuelle.
Je vois, vous êtes quand même un petit peu essoufflé. Hein.
Oui, c'est l'ouvreuse qui me fait des blagues de casque.
Eh oui, on va tout dire à nos auditeurs chéris, il arrive parfois que nous ayons quelques soucis techniques, mais ça s'arrange. Et ça s'est arrangé justement. Laurent, vous allez nous conseiller quelques films à voir à la télé.
Oui, j'ai sélectionné 4 films au cinéma. Au cinéma, la télévision, c'est ça. Je suis perturbé par cette histoire, excusez-moi.
Ben, je comprends. Nous comprenons tous d'ailleurs.
Voilà. Donc j'ai sélectionné 4 films pour le cinéma à la télévision cette semaine. Et il y a un conseil DVD, lecture, qui concerne un grand écrivain qui nous a quittés il y a quelques jours.
Ah oui, c'est vrai.
Il était écrivain et cinéaste.
Écrivain et cinéaste. Il avait fait un film formidable, Brooklyn Boogie, co-signé. Hein,
ouais.
Un
film formidable. C'est celui d'avant dont je vais vous parler.
Ah, vous allez vous parler celui d'avant, très bien. C'est pour tout à l'heure. On aura l'occasion de parler de cet écrivain. Gardons encore un peu son nom. Son nom secret, mais bon, tout le monde sait qui est cet écrivain new-yorkais, grand amateur de la France et la culture française.
Il parlait très bien français, il a traduit des poèmes de Stéphane Mallarmé, donc il maîtrisait parfaitement notre langue.
Et il a même vécu ici, pas ici, à Toulouse, en France bien sûr, et à Paris en particulier.
J'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques années à la librairie Ombre Blanche, un homme délicieux.
Ben vous nous raconterez tout ça. Quelle belle aubaine. Merci Laurent Martin. Ce soir, il n'y aura pas de tribunal des séries. Notre homme de loi des séries a pris congé et on ne saurait trop le condamner à l'avoir fait. Hein, congé, long pont.
C'est un viaduc, là, c'est pas un pont.
Ah oui, là, c'est le cas de le dire, mais comme tous nos auditeurs doivent en profiter également, et nous sommes là pour leur conseiller quelques sorties ciné à faire, justement. C'est le moment d'en profiter, on a du temps libre, pourquoi ne pas aller au cinéma? Qu'y aura-t-il ce soir dans le panier de l'ouvreuse? Eh bien, il y aura une séance de rattrapage. Tiens, puisque la semaine dernière, nous n'avons pas parlé des nouveautés de la semaine, et il y en avait une fort intéressante, signée Antoine Rimbaud, une affaire de principe dans laquelle il revient sur une histoire qui s'est passée à l'Assemblée européenne, au Conseil de l'Assemblée européenne. José Bové, a mené l'enquête à propos de ce qui est arrivé à un des secrétaires de commission qui aurait été, semble-t-il, payé par les lobbies du tabac pour ne pas faire passer ses lois ou les faire passer en travers. Toujours est-il qu'il avait été mis à l'écart et, surprenant, ça avait surpris José Bové et bien surpris. C'était un adversaire politique de Bové, mais néanmoins, pour lui, une affaire de principe. Il faut que les gens puissent se défendre et surtout ne pas être jugés coupables alors qu'ils sont innocents.
La présomption d'innocence en France.
Ils sont foulés du pied.
On reparlera donc de ce film passionnant et une bonne idée de le voir maintenant, puisqu'on va voter bientôt pour les élections européennes. Et ça nous réconcilie avec les députés européens et les hommes politiques en général. Une affaire
José
de principe.
Bové, que j'avais eu la chance de rencontrer aussi.
Vous avez rencontré tout le monde, finalement.
Oui.
Ce soir,
c'était pour la Reading Gag.
Délicieux aussi, lui aussi, délicieux.
Pas de la même façon, probablement. L'ouvreuse va scruter l'affiche de la semaine avec vous, Laurent Martin. Les reprises sur le grand écran, il y en aura. Il y aura des coups de cœur, bien sûr, car on a toujours des films, des manifestations qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. Et puis, bien sûr, de la musique tout au long de cette émission pour pouvoir vous détendre efficacement les oreilles. Nous sommes donc ensemble jusqu'à 20h. Bon début de soirée avec nous. Instant, Laurent Martin parlait d'un écrivain qui nous a quittés il y a peu de temps, auquel il va rendre hommage tout à l'heure, mais il y a aussi un cinéaste qui est parti à la fin du mois d'avril, à peine âgé de 63 ans, Laurent Canté. Laurent Canté, comment qualifier Laurent Canté si ce n'est en le désignant comme probablement le cinéaste, un vrai cinéaste indépendant, non? En tout cas, c'est lui qui ramenait la France au firmament du Festival de Cannes, qui avait reçu en 2008 la Palme d'Or pour Entre les Murs, alors que le cinéma français n'avait rien reçu depuis 1987 et Sous le soleil de Satan de Piala. Et Entre les Murs, un film qui se passait dans un établissement scolaire, un collège en particulier, un film formidable qui lui avait valu donc la récompense suprême à Cannes. Un homme discret, exigeant, pudique et indépendant, je le disais, jamais un mot trop. Et ben moi aussi j'avais eu l'occasion de le rencontrer. Quand je dis moi aussi, c'est pas à propos de Laurent Canté, c'est à propos de Laurent Martin, qui faisait référence à toutes ces personnes, ces personnages qu'il avait eu le loisir de rencontrer, avec lesquels il avait pu parler. Et je l'avais rencontré donc pour, en fait, maintenant ce qui sera son dernier film, Arthur Rimbaud, sorti en 2021. Arthur Rimbaud, vous vous souvenez que c'était un film dont il c'est un fait divers qu'il avait inspiré, l'histoire de Mehdi Méclin. Vous vous souvenez, Mehdi Méclin, qui au mois de février 2017, il était chroniqueur à France Inter et au Bondy Blog, et il était, on peut le dire, en tout cas, passé pour être... il était très apprécié, en tout cas, de l'intelligentsia. Et il a été rattrapé par la découverte de nombreux tweets antisémites qu'il avait fait avec un autre nom. Hein, antisémite, misogyne, homophobe, il avait... Il avait tout, coché toutes les cases. Et il avait fait ça pendant 4 ans, entre 2011 et 2015, sous le pseudonyme de Marcelin Deschamps. Mais c'était lui, Mehdi Méclin. Alors, Laurent Canté s'est inspiré donc de ce fait divers, de Mehdi Méclin, pour créer le personnage d'Arthur Rimbaud, en fait, le pseudo, là, en l'occurrence de son personnage principal, qui lui aussi est rattrapé par des tweets. Et, eh bien, je vous propose d'écouter Canté qui nous parle justement de cette affaire Mehdi Méclin et ce déclic qui a provoqué chez lui l'envie d'en faire un film. Laurent Canté.
Le déclic a été cette histoire de Mehdi Méclin, ce jeune homme, auteur plutôt reconnu, ayant fait, que j'entendais à la radio régulièrement sur France Inter, dont je lisais les articles dans un blog consacré à la banlieue, le Bondy Blog. Et il y a un moment où, d'un seul coup, j'ai découvert dans la presse un matin des tweets, alors qui ne sont pas ceux qu'on voit dans le film, mais qui sont tout aussi irrecevables. Et je me suis posé la question, je n'arrivais pas comme ça à recoller les morceaux, à me dire que ce garçon dont je lisais les articles intéressants et dont je trouvais qu'il avait une tête super bien faite, quoi, pouvait être aussi l'auteur de ces tweets-là. Et voilà, j'ai eu une espèce de vertige. Le film reflète ce vertige-là, c'est-à-dire qu'il pose des questions auxquelles je n'ai pas vraiment de réponse. On peut faire des hypothèses, on peut essayer de comprendre un peu les cheminements qui l'ont mené à ça, mais je pense qu'il n'y a pas de réponse à donner à cette histoire-là non plus.
Pas de réponse, mais en tout cas un film qui mérite d'être vu maintenant, et pas seulement parce que Laurent Cantet nous a quittés, mais simplement parce que c'est un bon film comme il était capable d'en faire.
Ah oui, on peut citer aussi Ressources humaines avec Djalil l'expert, qui était vraiment excellent, l'histoire de ce jeune homme qui débute dans le métier de ressources humaines et qui doit liquider la boîte où travaille son père. Donc vous imaginez... Et oui, il n'y aura pas de famille le dimanche.
Il est issu, c'est issu d'un milieu ouvrier.
Voilà, de milieu ouvrier. Lui, il a réussi et il travaille aux ressources humaines de l'entreprise de son père et il doit faire un plan de licenciement.
C'est la preuve même que Laurent Cantet, c'était le cinéaste de ces sujets difficiles, délicats, d'actualité, oui. Tous ceux qui traverse justement l'époque et dont il est bon de parler. Il le faisait avec mesure et il était capable d'en faire de très beaux films.
Comme le fait Stéphane Brisé avec Vincent Lennon, c'est toujours des films sociaux, des films d'actualité qui sont très intéressants.
Laurent Cantet, à propos d'Arthur Rimbaud, à l'instant, et dans son film, il y avait cette musique, là. C'est Chloé Thévenin qui avait composé la bande originale du film de Laurent Cantet, Arthur Rimbaud. Ce titre qu'on entend donc dans le film s'intitule « À la dérive ». Installez-vous. On ne perd pas nos habitudes, on regarde toujours un film en début d'émission. Installez-vous donc confortablement, la projection commence.
Il n'y a que la cavalerie polonaise qui n'a pas fait le déplacement. T'es vivant ? Je t'ai sauvé. Crois-tu qu'il serait reconnaissant? Non. Le Tsai, il ne desserre pas les dents. Tu veux en discuter? M'envoyer me faire foutre?
Me faire foutre.
Il fallait le tuer, Fanning? Fanning? Qui c'est celui-là? Le flic que t'as dégommé? Pourquoi il a fallu que tu le tues? Il devait avoir une famille, des enfants qui verront plus leur père. Il me croyait, lui.
Oh, c'est qu'il te croyait, c'est pour ça que j'aurais pas dû le flinguer.
Rien à voir.
Je crois bien que si.
Oui, bon, peut-être, oui. Et alors?
Je fais ça pour vivre.
Tu parles d'un boulot.
Il fait ça pour vivre. Tu parles d'un boulot. Guillaume Sidom.
Ah, le décor est planté pour Collateral, film de Michael Mann, sorti sur vos écrans en 2004, il y a pile 20 ans, sur la superbe affiche du film avec Tom Cruise de profil avec son revolver. Le message est clair, une nuit, un taxi, un contrat, unité de temps, de lieu et d'action, l'un des meilleurs films du cinéaste américain. Un taxi dans la nuit de Los Angeles, conduit par Jamie Foxx, un tueur à gages melvillien, c'est Tom Cruise, complètement à contre-emploi ici, l'un de ses meilleurs rôles, et une ville filmée comme une pure abstraction, comme un vrai personnage, une ville que Michael Mann connaît par cœur. Il paraît d'ailleurs qu'à Los Angeles, l'agglomération est si grande et densément peuplée, et bien qu'un homme est décédé dans le métro et que personne ne l'a remarqué pendant des heures. C'est donc le très épuré et toujours aussi fascinant Collateral, réédité en copie neuve, 20 ans après sa sortie donc, mise en scène virtuose pour filmer l'angoisse, notamment cette scène incroyable dans la boîte de nuit qui va rester dans les annales pour l'éternité, folle nuit de violence, de chantage, de comédie aussi, à travers Los Angeles, une vraie réflexion sur notre humanité aujourd'hui, sur notre aliénation, sur notre solitude dans nos villes modernes. Il ne faut plus guère que quelques plans pour reconnaître le style si particulier de Michael Mann, une prédilection pour les univers urbains et cristallins, et en particulier donc Los Angeles, ville dont il a su renouveler l'image, un goût aussi pour les hommes solitaires et concentrés, une manière de filmer aérienne et contemplative qui privilégie le détail et les regards inquiets, enfin une vision du monde contemporain qui allie fascination et mélancolie.
Mais quelle est l'histoire ?
Eh bien, Los Angeles, ruban de bitume aux nœuds innombrables, réseau de highways et de parking, Max, un chauffeur de taxi dévoué, mais ayant du mal à conduire sa propre vie, accepte, en échange d'une généreuse poignée de dollars, d'accompagner la nuit durant Vincent, un passager en costume gris et chemise blanche, a priori très civilisé, en réalité un génie du mal. Max, pris en otage, doit s'exécuter, sinon, eh bien, il risque d'y passer. Mais alors qu'il attend son client monté dans un appartement pour son premier rendez-vous, il voit horrifié un homme chuter d'une fenêtre et atterrir sur le pare-brise de son taxi. Sous la menace de son arme, Vincent contraint alors son malheureux chauffeur à charger le corps dans le coffre et à poursuivre sa course. La nuit vire alors à l'équipée mortelle à travers la Cité des Anges. « C'est quoi votre truc ?» demande-t-il un moment. « Eh bien, l'indifférence, » répond Vincent, spectre melvillien en pull au casse. Après Hit et Révélation, Michael Mann nous offre ici une nouvelle vision personnelle de Los Angeles. Filmé de nuit, presque entièrement en extérieur, son film ne pénètre que dans quelques lieux couverts, lieux branchés, aux couleurs électriques, aux bruits envahissants, contrastant avec les ruelles désertes. L'image vidéo, peu engageante au début, contribue à magnifier le côté étincelant de cette Cité des Anges aux mille néons. Les couleurs sont chaudes et offrent un formidable contraste avec l'action. Et le brillant scénario de Collateral nous permet aussi de découvrir un Tom Cruise imposant comme jamais, dont la placidité s'estompe peu à peu au contact de ce chauffeur de taxi qui ignore sa force. Mis en situation de tension extrême, il sera capable de maîtriser ses émotions et de surpasser ses propres ressources. Et Jamie Foxx, véritable révélation du film, s'avère un partenaire crédible et percutant dans ce suspense haletant, tout droit sorti des cauchemars urbains dont seul Michael Mann connaît le secret.
L'image, granuleuse et riche en détails, donne à voir un Los Angeles nocturne et sensoriel à la frontière de l'irréalité.
Et nous trouvons déjà alors par bribes et dans les lignes des autoroutes la fascination du Michael Mann de hacker pour les mondes interconnectés et numériques. La représentation de la cité californienne, sexy et chaleureuse, n'est ici qu'un lointain souvenir. Michael Mann ne semble s'intéresser qu'à des espaces transitoires, des lieux artificiels qui ne nous encouragent jamais à vouloir y rester. Le film, imprégné par l'atmosphère solitaire des métropoles contemporaines, commence dans un aéroport et finit donc dans un métro. Le taxi, d'abord présenté ici comme comme un lieu de réconfort, d'échange. Croise donc le chemin d'un parasite, Vincent, joué par Tom Cruise, il en fera. Son carrosse mortifère, visage fermé, gâchette facile dans ce rôle de sociopathe calculateur, amoral et apparemment invulnérable face donc à un Jamie Foxx impeccable. En chauffeur dévoué, mais peinant à prendre sa vie en main et finalement contraint par les circonstances à faire des choix pour le moins radicaux, le cinéaste essaie toujours d'insérer le parcours attendu de ses personnages dans une toile de fond autrement plus obscure et plus indécidable. La moindre fenêtre s'ouvre ici sur l'immensité d'un néant sidéral. C'est cela qui, en dernière instance, fait sans doute le prix de Collatéral, cette impression inattendue que le film cherche finalement consciemment à se confronter à son autre, au grand non-sens de ce qui l'entoure, jusqu'à flirter parfois dans un poudroiement coloré avec la catastrophe visuelle, un thriller crépusculaire et terrassant. La caméra est virtuose et ce cadre typiquement manien, reconnaissable entre mille. À retrouver donc ce soir en version numérique restaurée à 21h15 à l'American Cosmograph à Toulouse. Également visible dimanche 12 mai 11h20, lundi 13 mai 17h30. Le film est à noter à l'affiche jusqu'au mardi 28 mai inclus. Retrouvez toutes les séances sur american-cosmographe.fr et ce dimanche 12 mai donc à 21h sur Arte et en Blu-ray et DVD chez Paramount. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon. Et surtout, allez au cinéma.
Rostock signe ce morceau qu'on entend dans Collatéral, le film de Michael Mann dont vous a parlé Guillaume Sidom avec brio. Ce qui m'avait marqué aussi dans ce film, à la fois énorme et finalement simple, la quête, enfin quelle quête, celle d'un tueur qui a 5 contrats à effectuer en une nuit, et c'est que dans sa déambulation nocturne de Los Angeles, on voit que ça devient même un pays. Un pays, Los Angeles, on y voit même des coyotes errer dans les rues abandonnées.
N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence.
Je vous le disais, une séance de rattrapage avec une affaire de principe, le film d'Antoine Rimbaud, son deuxième long métrage. L'histoire de cette affaire qu'on a d'abord parlé en tant que Dali Gate, du nom de cet homme qui était secrétaire d'une commission européenne et qui était accusé d'accointance avec le lobby des tabacs. Et puis c'est devenu le Snusgate qui est le Barroso Gate. Du nom de José Manuel Barroso, qui à l'époque était à la tête de cette institution européenne. Et donc, c'est à ce jour le plus gros scandale européen qui mettait en cause tous les ponts de l'institution. Donc, je le disais à l'époque, c'était José Manuel Barroso qui était à sa tête. Et donc, le film, eh bien... arrive à nous expliquer tous les ressorts, justement, de cette incroyable affaire et d'en faire quelque chose, un film à suspense. Vous savez, ces films dossiers enquête, ce genre dans lequel les Américains excellent, eh bien, celui-là n'a rien à leur envier et Bouly Lanner, c'est un formidable José Bové. Et José Bové qui était de passage à Toulouse avec Antoine Rimbaud pour parler de ce film, explique le titre et pourquoi lui en a fait une affaire de principe de cette histoire.
Alors là, je dirais que c'est le premier titre qu'ils ont choisi, qui était théoriquement un titre provisoire, oui. Et qu'au final, à la fin du film, c'est devenu le titre définitif, parce qu'en fait, le film était une réponse. C'est pas une question, en fait. C'est une affaire de principe. C'est-à-dire que, a priori, j'avais aucune raison de défendre John Daly, parce que je ne travaillais pas sur ce sujet-là. Mais que l'ayant fréquenté sur les sujets comme les OGM, que les questions alimentaires, les additifs, tout ça, les affrontements étaient corrects, complètement évidemment en opposition l'un à l'autre, mais je n'arrivais pas à imaginer que sur cette directive tabac, parce que je savais que son père était décédé du cancer du poumon, etc., je voyais pas pourquoi il aurait... effectivement accepter d'être soudoyé. Voilà, donc ça c'est vraiment pour moi une évidence, et donc mon intime conviction, pour reprendre le titre, oui. Mais parce que c'est comme ça aussi que ça démarre, mon intime conviction c'est qu'il y a un coup monté derrière, et que c'est l'industrie du tabac, donc je pars de ça, et les événements s'enchaînent, et effectivement c'est ce qui s'est passé quoi. Donc le lien entre la commission et l'industrie du tabac et quelques dysfonctionnements en parallèle qui montrent bien que c'est toujours l'Europe se construit en permanence avec les crises qu'elle et donc elle surmonte les crises et elle avance. Donc c'est ça aussi. Donc c'est pas du tout un film anti-européen. Au contraire, contrairement à ce que dit Barroso dans le film en disant que je suis populiste, j'ai dit non, c'est vos pratiques qui rendent les gens populistes.
C'est les pratiques, donc, de ces gens-là qui rendent les gens populistes. Bové, qui a inspiré le film à Antoine Rimbaud, en fait, cette enquête. Et vous vouliez ajouter quelque chose sur...
Je voulais savoir ce que vous aviez mangé au McDo avec lui après.
Oui, oui, le fameux McDo de...
Il y a 20 ans.
Oui, c'est vrai.
Il avait très faim ce jour.
C'est impressionnant, justement, parce que on ne retient de Beauvais, ça, effectivement, ce que vous disiez.
Il s'est présenté à la présidentielle aussi. C'est pas l'époque où il était en prison, d'ailleurs. Ça, j'avais voté pour lui.
Il a fait deux mandats européens. Oui. Il n'est plus au Conseil de l'Europe. Là, il n'est pas député sortant. Il a arrêté à la dernière élection, à la fin du dernier mandat de 2019. Celui qui arrive à son terme là, cette année, puisque nous devons revoter. Alors, il parle d'une intime conviction. C'est pour ça qu'on a... Oui, parce que c'est le premier film d'Antoine Rimbaud, une intime conviction. Et c'était à propos de l'affaire Viguier. Vous vous souvenez?
Suzanne Viguier, oui.
C'est quelque chose qui touche en particulier les Toulousains.
Oui, puisque c'est Toulouse,
ça professeur de droit, là.
Professeur, ouais. Oui.
Alors, comment faire, justement, de cette histoire, de cette affaire, un film à suspense? Ben voilà. Comment il s'est débrouillé pour faire ça, Antoine Rimbaud?
Bah alors d'abord, moi, l'écriture de suspense, c'est mon écriture. C'est-à-dire j'ai un peu de mal à pas écrire comme ça, à pas construire le film sur du rythme, sur des enjeux, effectivement, de questions et d'enquêtes, quoi. Voilà, ça fait deux fois. Enfin, ça, j'en ai écrit d'autres, des scénarios, mais bon, j'ai un truc avec le cinéma d'enquête. Et donc, on voulait faire un film d'enquête vraiment mu par le dialogue et très dense. Finalement, en tombant sur cette affaire, ça devient aussi un film sur une institution qui dysfonctionne. Donc après, il y a tous ces éléments qui s'ajoutent des codes qu'on n'a pas, quoi. Et que j'ai pas moi non plus, hein. C'est-à-dire que, après, je suis allé au Parlement européen et j'ai rencontré du monde et je me suis immergé là-dedans, mais en observateur, quoi, sans y travailler. Oui, l'ambition, c'est de prendre une matière hyper complexe pour en faire du cinéma à peu près digeste, ludique, plein de suspense, et trouver une écriture. Et donc ça, encore une fois, le film répond, c'est des effets, c'est du montage, c'est une façon de laisser une balle en l'air à chaque fin de séquence, de relancer les questions dramatiques en permanence, et puis de donner du rythme. Il y a un truc qui est très pratique, c'est que c'est l'Europe. Donc on n'arrête pas de circuler entre Strasbourg, Bruxelles, Malte. On fait un petit tour le week-end au Larzac pour aller ranger du bois, puis on repart à Bruxelles. On voulait raconter effectivement que l'Europe, ça circule, quoi, évidemment. Et en fait, c'est ce que je fais, c'est à la fois ma méthode, en tout cas, c'est à la fois me nourrir du réel et de tout ce que m'ont raconté José et son assistant parlementaire Jean-Marc Desfiles, qui ont été nos sources premières, quoi, évidemment, plus leur enquête elle-même, quoi, des documents qu'ils nous ont donnés. J'ai récupéré le fameux enregistrement des deux lobbies de Swedish Match qui dure une bonne heure. J'ai récupéré beaucoup, beaucoup de matière, donc ça, c'est le réel, c'est une boussole essentiel. Et puis de l'autre côté, il y a le cinéma, l'envie de cinéma, parce que s'il n'y a pas de cinéma, j'ai rien à faire. Donc l'envie de cinéma, c'est du côté des films d'enquête, des films dossiers, du thriller, plus du cinéma américain. Et en même temps, le film est dans un ADN très européen, quoi.
Vous l'avez compris, c'est tout à la fois tous ces genres avec l'empreinte de l'Europe. Et c'est vrai que dans cette histoire, quand on circule au Conseil de l'Europe, dans les bâtiments européens de l'Union européenne à Bruxelles, eh bien, ce sont de grands espaces, des corps vastes, désincarnés, très modernes. Et à côté de ça, il y a cette toute petite équipe, José Bové, son adjoint, et une toute jeune fille stagiaire. Alors celle-ci, ce personnage a été inventé par Antoine Rimbaud, puisque Clémence, elle, n'a pas eu d'équivalent au cours de cette affaire. Par contre, Fabrice, lui, a bel et bien été, et bel et bien l'assistant parlementaire de José Bové, incarné par Thomas VDB, je le disais, Bouly Lanners et José Bové, et la formidable Céleste Brunkel interprète la jeune Clémence qui pique, est un peu un aiguillon pour ces deux hommes qui font tout pour dénouer cette affaire, pour comprendre ce qui se passe, mais qui, quand ils sont confrontés aux difficultés, ils disent, ont un côté un peu baisse les bras, parce que bon, la lourdeur, comment ça fonctionne. Et elle est là, c'est pas normal, ça marche pas comme ça. Et c'est comme ça qu'elle relance les deux personnages. Alors, une dernière chose, c'est un film remarquable qu'il faut aller voir. Très réussi, remarquablement interprété. Et j'ai une toute petite chose qui n'a rien à voir avec le film, mais qui a à voir avec José Bové, son rapport au cinéma. Alors ça, c'est la musique, mais son rapport au cinéma, le voilà tout de suite.
Alors, enfant, j'allais beaucoup au cinéma. Et j'avais la chance d'avoir des grands-parents qui étaient fleuristes à Bruxelles. Et les films sortaient toujours avant en Belgique. En France. Mmh, et donc, c'est fait que j'avais le droit à plein de films avant. Et donc là, j'y allais une fois l'après-midi, une fois le soir, quoi. Tu vois, l'après-midi seul et le soir avec mon grand-père. Et après, c'est vrai qu'on a continué à aller au cinéma en France. J'y allais. Et puis, bon, maintenant, c'est beaucoup plus... comme je suis un peu loin, quand même, des cinémas. Donc, c'est à la télé que j'en vois beaucoup. Un ou deux par jour.
Un ou deux films par jour, même à la télé. Donc, il est sérieusement cinéphile, José Bové.
On espère qu'il écoute nos conseils de cinéma à la télévision, peut-être.
Ben, et j'en suis persuadé.
Moi aussi. Un petit doigt.
Le commissaire à la santé de la Commission européenne est accusé de compromission avec le lobby du tabac.
Mr. Darley, did you accept 60 million euros to soften your director?
No. Never. The tobacco lobby torpedoed out of me.
My father fell into a trap. His directive was historic, a real blow to the tobacco industry.
J'ai l'air des infos. C'est peut-être bien commenté.
Monsieur le Président.
Écoutez, M. Dali n'a pas répondu aux critères du code de conduite des commissaires européens.
Mais quels critères exactement?
La Commission doit rendre les comptes au Parlement. Et Barroso, je suis désolé, il doit respecter la règle comme tout le monde.
Qui êtes-vous, monsieur?
José Bové. Ah oui, c'est vous. C'est terrifiant, votre populisme.
Je peux te dire qu'à partir de maintenant, on va les faire chier. Mais alors, vraiment chier.
Hello, I'm José Bové. Welcome.
We are starting to believe that the tobacco lobbies may well have manipulated us.
On cherche un accord qui aurait été signé entre la Commission et Philippe Maurice.
Nous aussi, on aimerait bien y avoir accès. Ça fait des années qu'on demande.
Je crois que j'ai trouvé un truc sur le tabac.
Barroso is beyond our reach.
You don't need to look for the lobby when the lobby is inside.
Tu réalises l'image que tu donnes des parlementaires?
Oui.
S'il y a quoi que ce soit qui sort dans la presse, tu vas être poursuivi.
Oui.
Et il ne lâchera pas l'affaire, il ira jusqu'au bout. L'ouvreuse scrute l'affiche de la semaine avec vous, Laurent Martin.
À l'affiche cette semaine, Un homme en fuite, le film de Baptiste Debrot avec Léa Drucker, Bastien Bouillon et Pierre Lotin. La petite ville de Rochebrune est au bord du chaos. Johnny, leader du mouvement de protestation de la ville, a disparu après avoir braqué un fourgon. Lorsque Paul apprend la nouvelle, il revient dans la ville qu'il a vu grandir pour retrouver son ami d'enfance avant la police. Seulement, l'enquête d'Anna Werner l'amène inéluctablement vers le secret qui unit Paul et Johnny. Dans son premier film, Un polar social, le réalisateur Baptiste Debrot rassemble les pièces d'un puzzle où s'entremêlent une intrigue policière et un drame social sur fond de luttes ouvrières. Symbole de cette révolte, Johnny, que coucou, dont on découvre l'enfance misérable, à tout du héros maudit, hein, criminel pour les uns, leader charismatique pour les autres. Enquêtrice minutieuse, Léa Drucker maîtrise parfaitement son personnage, partagé entre son sens du devoir, ses questions sur la légitime violence et ses sentiments pour des grévistes qui risquent de tout perdre, ce qui ne manque pas de la troubler. Marion Barbeau, qu'on avait remarqué dans Encore de Cédric Lapiche, tient ses promesses face à deux acteurs solides, le mystérieux Paul, incarné par Bastien Bouillon, et le révolté Johnny, incarné par Pierre Lotin. Sous influence nordique, ce polar évolue entre flashback et flash-forward, enchaîne les retournements de situation, peine parfois à développer quand même un véritable propos politique, mais reste l'incroyable Pierre Lotin en voyou flegmatique qui vole nettement la vedette au reste du casting. Petite revue de presse sur ce film, selon Télérama, très intelligemment construit à coups de flashbacks qui abolissent le temps. Les cahiers du cinéma ont bien aimé aussi. Drames familiaux et déréliction régionale s'offrent ici, juxtaposés et amollis. Petit bémol pour l'Obs. On y croit durant une bonne demi-heure, puis tout s'effondre malheureusement par la suite, enseveli sous les raccourcis et les invraisemblances. Le JDD n'a pas aimé non plus. On s'ennuie vite dans cette chasse à l'homme aux idées radicales. À l'affiche aussi cette semaine, on part au Japon avec Comme un lundi de Ryo Takebayashi. Messieurs, votre boss vous harcèle, vos collègues vous épuisent, vous ne voulez plus retourner au bureau. Vous n'imaginez pas ce que traversent alors Yoshikawa et ses collègues, car en plus des galères, ils sont piégés dans une boucle temporelle qui recommence chaque lundi. Entre deux rendez-vous clients, réussiront-ils à trouver la sortie? Donc un film de boucle temporelle, encore un, hein, ça commence à devenir un brin répétitif, voire même un genre en soi, mais bon, vous me direz, c'est un peu l'idée. Après des variations en monde horreur avec Happy Birthday, en comédie romantique avec Palm Spring, version SF avec Edge of Tomorrow, et on en passe, comme un lundi déclinant le concept façon comédie de bureau, la vie en open space ayant en soi un côté jour sans fin, avec métro, boulot, dodo, mais ici c'est que le boulot. Donc il n'est question que des employés d'une agence de pub japonaise qui se retrouvent à revivre indéfiniment, donc la même semaine, on dirait on vit ça toutes les semaines, c'est ce qu'on appelle la routine, l'atmosphère, il voit qu'un peu Michel Gondry, sans les bricolages, mais pour ce mélange de prosaïsme, de fantaisie, de filmage assez débraillé et de petites absurdités poétiques. On pense à la soupe miso-effervescente sur laquelle bossent les personnages, ou le flashback du pigeon qui se cogne à la vitre. Enfin voilà, tout cela pourrait peut-être aider les aider à trouver la sortie de cet engrenage. Donc, un film léger, charmant, sur des sujets plutôt sérieux, comme l'articulation entre l'individu et le collectif, ou des réunions clients qui rendent parfois marteau. Petite revue de presse sur ce film. Vous détestez le lundi, elle aussi, cette comédie servie avec humour par son actrice principale, tire son épingle du jeu. L'Obs Abine, mais aussi une comédie loufoque, sociale et fielleuse sur le monde du travail, made in Japan. Positif a bien aimé aussi, une satire filmée comme une sitcom avec un scénario assez astucieux pour tenir en haleine. Petit bémol pour Télérama, un film pauvre en gags et monotone, comme si le film était piégé par son dispositif même. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir L'Esprit Coubertin de Jérémy Saint au Grand Palais à Cahors, un film d'actualité bien sûr avec les JO et la flamme olympique qui arrive aujourd'hui à Marseille. On peut voir Neuilly-Poissy, la comédie de la semaine de Grégory Boudboul avec Max Boublil. Le blockbuster, c'est La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume de Wes Ball. On peut voir Wake Up, un film d'épouvante d'Anouk Wiesel, de François Simard et Johan Wiesel. La Mémoire éternelle de Maïté Alberdis, un documentaire chilien. Et puis pour les plus jeunes et les plus grands comme vous, Guillaume, car je sais que vous aimez ça, des films d'animation pour voir Blue et Compagnie de John Krasinski et Super Lion ou Super Lion, comme vous voulez, de Rasmus Sivertsen et Jean-Luc Julien. That's how it starts. We go back to your house. You check the charts and start to figure it out. And if it's crowded,
My Friends, LCD ou LCD Sound System, qu'on peut entendre dans le film de John Krasinski, Blue et compagnie, qui n'est pas qu'un film d'animation. En fait, c'est un film où on mélange l'animation et les images réelles, où une enfant, alors que son papa est hospitalisé, a la possibilité de voir les amis imaginaires oubliés par les enfants. Elle peut les voir, et ce sont eux qui sont en animation. Et avec Ryan Reynolds dans le rôle principal et la toute jeune Kylie Feeling, ou Fleming, pardon, ma vue baisse au générique de ce film.
Je m'appelle Bond, James Bond, et vous êtes sur Présence, Radio Présence.
I can't let you throw yourself away. I can't let you go your separate way. Don't you wanna see the sun come up each morning? Don't you wanna see the sun go down each day? Don't you wanna see that little girl who loves you so?
Et vous reconnaissez, c'est Randy Newman qui interprète quoi donc ce titre « I can't let you throw yourself away ». C'est dans le film de John Lasseter, Toy Story. Eh oui, Toy Story qui est sorti, ça fait un petit moment maintenant, 1996. Pourquoi je vous en parlais? Parce que vous pouvez revoir tous ces jouets qui vivent une fois que leur propriétaire, qui s'appelle Andy, je crois, est pas dans la chambre. Hein. À ce moment-là, hop, tout le monde vit, et puis on fait la connaissance de tous ces personnages, et en particulier Woody et Buzz l'éclair, qui sont les personnages centraux de cette histoire. Alors, vous pouvez voir Toy Story dans sa version originale, le film de Lasseter, lundi prochain, 13 mai, à 20h, au Pâté Wilson. Au Gaumont Labège, le lundi 13 mai, vous pourrez voir Three Billboards. Alors là, on est dans un autre genre, beaucoup plus dramatique et pas un film d'animation du tout. L'histoire d'une mère qui profite du fait qu'il n'y a rien sur trois panneaux publicitaires à l'entrée de la ville pour dire tout ce qu'elle pense du bien, tout ce qu'elle pense de bien sur la police qui n'enquête pas sur la disparition de sa fille et surtout, en fait, sur son assassinat et son viol et qui a entraîné sa mort. Et il ne trouve pas le coupable. Et donc, dans la ville d'Ebbing, dans le Missouri, ça remue beaucoup, et en particulier le shérif local. Ça marche moyennement bien. Le film est remarquable. Il avait été présenté en 2017 à la Mostra de Venise, où il remporta le prix du meilleur scénario. Et il avait également eu le prix du public au Festival international du film de La Roche-sur-Yon. Il y a une belle distribution aussi dans ce film, à savoir Frances McDormand qui joue le rôle de la maman, Mildred Hayes, et il y a Woody Harrelson qui joue le rôle du shérif Bill Willoughby, et il y a Sam Rockwell qui fait l'agent Jason Dixon, un des adjoints du shérif, un agent très bas de plafond. Il sait bien le faire, Sam Rockwell, vraiment très très bas. Mais le film, lui, est remarquable. Three Billboards, c'est au Gaumont Labège, lundi prochain, 13 mai à 21h, en VO. Et puis au VO de Muret, ça c'est dimanche 12 mai à 18h20, vous verrez Sully, le film de Clint Eastwood qui est sorti en 2016. L'histoire de ce commandant de bord qui sauva tous les passagers de son avion et son équipage, alors que son avion était en difficulté juste au moment où il allait se poser, et il amerrit sur l'Hudson River, à New York, et l'enquête qui s'ensuit, aurait-il pu arriver jusqu'à l'aéroport ou pas, a-t-il bien fait de se poser dans l'eau, parce que c'était malgré tout risqué. Il risquait d'exploser l'avion, aussi de que tous les passagers ne meurent, même s'il arrive à se poser, noyé en particulier, et il n'y eut aucun décès et tout le monde a été rescapé. Allez voir ce film remarquable de Clint Eastwood, Sully, et ça c'est visible au VO de Muret dimanche 12 mai à 18h20. Puis on conclura avec ce qui se passe, l'événement qui se passe à l'American Cosmograph, à savoir Ghibli Forever. Donc vous pouvez voir la comtesse de la princesse Kaguya, Ponyo sur la falaise, Arrietty, Pompoko, le château ambulant, princesse Mononoke, ou encore le voyage de Chihiro. L'American Cosmograph est à Toulouse. Allez sur le site du Cosmo, american-cosmograph.fr, pour savoir quand vous pouvez voir ces films et à quelle heure. Laurent, qu'est-ce qu'on a à voir à la télé?
Consonne, voyelle, consonne, voyelle, quatre lettres, ciné. comme ciné à la télévision.
Car... À ce propos, vous savez que les chiffres et les lettres, c'est terminé.
C'est ouais. pour ça que je disais ça.
Remplacé par le jeu des 1000 euros.
Ouais. Le week-end. Nous avons perdu beaucoup de choses. Ouais. Nous avons perdu Paul Auster, Bernard Pivot et les chiffres et les lettres.
Oui, et Laurent Canté.
Et Laurent Canté, exactement, oui, tout à fait. Le cinéma à la télévision garantit sans flamme olympique, mais plutôt avec une flemme olympique. Ça commence dès ce soir, mercredi, sur Arte à 21h, avec Bon Voyage de Jean-Paul Rappeneau, avec Isabelle Adjani et Gérard Depardieu. En juin 40, ça ne nous rajeunit pas. À Paris, la confusion gagne les prisons. Tous les détenus sont alors transférés en zone libre. Frédéric, un écrivain accusé à tort de meurtre, et Raoul, un voyou, profitent de l'occasion pour s'évader et fuir à Bordeaux. Une épopée romanesque, enlevée et pleine de charme, dans laquelle Isabelle Adjani est éblouissante en diva, sa manipulatrice. Jeudi, Arte, 13h10, ce sera Les Vikings, un film de 1958 de Richard Fleischer, avec Kirk Douglas et Tony Curtis, vers l'an 900, hein, rappelez-vous, au cours d'une attaque sur l'Angleterre, Ragnar, le chef des Vikings, assassine le roi de Northumbrie, Edwin, et viole sa femme, Enid. La couronne passe au fourbe Aella, pendant que le fils de Ragnar et d'Enid Eric est prudemment caché et éloigné par sa mère. Formidablement interprété, un grand classique du film d'aventure, aux scènes d'action musclées et aux somptueux décors naturels, avec des scènes tournées au Fort Lalatte, en Bretagne. Samedi sur C8, 21h10, un petit western, et un grand western. Il était une fois la Révolution de Sergio Leone, avec Rod Steiger et James Coburn. Mexique 1913, Juan Miranda, spécialisé dans l'attaque des diligences, un peu comme Guillaume, fait la connaissance de Sean Mallory, un Irlandais venu prêter main forte aux révolutionnaires de Pancho Villa. Des personnages pleins de panache, de l'humour, une réalisation particulièrement maîtrisée, un classique, avec bien sûr la musique d'Ennio Morricone. Dimanche sur Arte 21h, ce sera Collatéral de Michael Mann avec Tom Cruise et Jamie Foxx. Guillaume vous en a brillamment parlé, donc je n'y reviens pas. Le conseil DVD et lecture, ce sera pour rendre un dernier hommage à Paul Auster, l'écrivain new-yorkais qui nous a quittés il y a quelques jours. Il était aussi cinéaste et je vous conseille de voir ou revoir Smoke, sorti en 1995. Les destins d'un écrivain désespéré, d'un ado noir un peu fabulateur, d'un photographe amateur et d'un patron de café dans le Brooklyn qu'aimait tant Paul Auster. Voilà, avec Harvey Keitel dans l'un des rôles principaux. Le film est disponible en DVD chez Universal pour quelques dizaines d'euros. Et puis côté livre, bah, je vous conseille pour moi mon livre préféré de Paul Auster, le premier que j'ai lu, ce sera Moon Palace. Je vous conseille aussi Monsieur Vertigo et puis la trilogie new-yorkaise. Ironie du sort, j'avais découvert Paul Auster grâce à Bernard Pivot, dans une émission que je faisais sur RTL. Et les deux hommes nous ont quittés quelques jours d'intervalle. Voilà pour le cinéma, la télévision, cette semaine.
Alors en théorie, tu risques jusqu'à 5 ans de prison et 30 000 euros d'amende.
C'est Rachel Portman qui a signé la bande originale de Smoke, réalisée par Wen Wang et donc scénarisée par Paul Auster. Formidable film, avec Harvey Keitel en tenancier d'un bureau de tabac et qui prend tous les jours, à la même heure, une photographie de son quartier.
Exact.
Tous les jours, à la même heure. C'est assez extraordinaire. C'est un film qu'il faut avoir vu, fabuleux. Et puis Harvey Keitel et William Hurt, on s'en lasse pas.
Et ils étaient tellement bien qu'ils ont fait appeler Brooklyn Boogie.
Oui.
Où Paul Auster leur avait dit de... Wen Wang, ils l'ont tourné ensemble. Il avait dit d'improviser chacun une dizaine de minutes. Et comme ce sont de grands acteurs, forcément, ils improvisent. Ça donne un très bon film.
Ça donne un très bon film, mais reste que Smoke est quand même au-dessus. Mmh. Puisque justement, il est conçu, imaginé par Paul Auster. Et le scénario est formidable. Ne manquez pas donc ce film, si vous avez l'occasion de le voir. De toute façon, suivez les conseils de Laurent Martin. Et tiens, dans mes précipitations, je vous ai pas parlé de la Cinémathèque sur le grand écran. Hein, la Cinémathèque, qu'est-ce que vous voulez nous en dire, cher Guillaume Sidom?
Mais ça se finit, il reste deux séances. La Femme et le Pantin, ce vendredi 10 mai à 21h. Et puis le très bon Marie Octobre, le huis clos, ce sera le 11 mai, le lendemain à 19h.
Julien Duvivier.
Julien Duvivier, oui, je voulais citer.
Julien Duvivier, donc vous pouvez encore aller, il est encore temps d'aller les voir grâce à nous, n'est-ce pas, Guillaume?
Eh bien, vous envoyez vos coordonnées à cinéma@radioprésence.com.
Et puis, avant les nouveaux cycles, puisque tous les cycles arrivent en fin de parcours à la Cinémathèque, il y a toujours Castouri, tout risque avec Lucas, justement le film de Verneuil. Il y a Le Solitaire, extraordinaire.
Hit.
Et Hit de Michael Mann. Michael Mann.
De Niro et Al Pacino.
Oui, et c'est un film assez extraordinaire aussi, qui précède Collatéral, dont Guillaume Sidom nous a parlé. Tiens, un mot sur le box-office, il nous reste quelques secondes. Alors, la grosse surprise, le carton de la semaine, c'est le film d'Artus. Incroyable. Un petit truc en plus a fait 1 100 000 entrées en une semaine. Nouveau film de la semaine dernière, a battu The Fall Guy, Ryan Gosling, qui arrive loin, loin derrière avec seulement 320 000 entrées. Et puis, le biopic sur Amy Winehouse, Back to Black, occupe la troisième marche du podium, et là, et c'était pas une nouveauté de la semaine dernière, mais est toujours là, réalise 310 000 entrées semaine et cumule 678 000 entrées. Messieurs, quels sont vos coups de cœur ?
Les coups de cœur, ce sera Un homme en fuite, comme un lundi, et La planète des singes.
Une affaire de principe, comme un lundi, Julien Duvivier, la Cinémathèque, et puis Collatéral à l'American Cosmographe et sur Arte.
Une affaire de principe d'Antoine Rimbaud, Un homme en fuite de Baptiste Debrault, L'esprit coubertin, une comédie débridée, Julien Duvivier, bien sûr. Et puis, un autre film sorti la semaine dernière, signé Nessim Chikaoui, Petite main, très réussie. Ici, sur des femmes de chambre d'un palace, et vous pouvez avoir d'autres informations, car Nessim Chikaoui était mon invité ce matin dans Mercredi Cinéma. Allez voir le podcast. Merci messieurs.
Merci à vous.
Bonne soirée, au revoir.
À la semaine prochaine.
La prochaine fois, on ira aussi.
Écoutez Présence, c'est votre radio. Soutenez Radio Présence. Qu'elle devienne aussi la radio de beaucoup d'autres.